Bonjour.
Bonjour.
Nous allons aujourd'hui dire des œuvres, des poèmes de Mahmoud Darwish, poète palestinien, et aussi pour en réponse avec ses textes à lui. Nous allons aussi entendre des œuvres de Nazim Hikmet, pour lequel j'avais déjà fait une émission, mais ce ne sont pas les mêmes textes. Parce qu'ils ont à peu près, ils ont eu à peu près le même parcours. Il y en a un, bien sûr, c'est par rapport à la Turquie. Et ils ont été en prison à cause de leur position politique, leur œuvre, qui est très appréciée du peuple, appréciée de beaucoup de monde. Et même des ennemis. Et en même temps, ils ont vécu la prison et l'exil. Voilà. Donc, ils ont quelque chose d'assez rapproché. Ce n'est pas du tout le même travail, parce que Nazim est beaucoup plus ancien, mais enfin, pas beaucoup de différence. Voilà. Donc, on va commencer par Mahmoud Darwish. Oui. Il est né en Palestine, mais tout petit, il a dû quitter la Palestine. Il se rappelle, à 5 ans, il est parti au Liban, dans les camps de concentration de Liban. D'ailleurs, que j'ai vu quand je suis allée jouer à Beyrouth, j'ai vu le camp de Sabra et Shatila, où il y a eu cette horreur. Voilà, donc, on va parler un peu de son œuvre, mais on va surtout écouter ses poèmes. Donc, bien sûr que ce sont des poèmes écrits en arabe. Chez Nazim, c'est écrit en turc, mais traduit par lui-même. Et je crois aussi qu'il a beaucoup travaillé aussi ses propres traductions, Mahmoud, mais pas tout le temps. D'ailleurs, il a des choses à dire sur ce que c'est que la traduction. Bon, nous allons commencer par un petit poème qui s'appelle « Mon père ». Il ignora la lune, se pencha pour étreindre la terre, invoqua un ciel sans pluie et m'interdit de voyager. Les éclairs ont abrasé ces vallées, mon père y élevait des pierres depuis les temps anciens et créait les arbres. De sa peau jaillissait la rosée et ses mains enfeuillaient les branches. Alors l'horizon en pleurs chanta. Ulysse était un preux, et dans la maison il y avait pain, vin et couverture, et chevaux et chaussures. Et mon père m'a dit une fois qu'il priait sur une pierre. Ignore la lune et garde-toi de la mer et des voyages. Le jour où Dieu flagellait son serviteur, j'ai dit: « Oh, Jean, devons-nous blasphémer ?» Alors mon père fit craquer ses poignets et me raconta. Dialoguant avec la souffrance, Job louait le créateur des vermisseaux et des nuages. La plaie a été créée à mon intention, non pour les morts ou les idoles. Laisse donc les plaies et la douleur et assiste-moi dans le regret de mes fautes. Un astre passa à l'horizon, descendant, descendant. Ma chemise était entre feux et vents, et mes yeux pensaient à des dessins sur le sable. Et mon père a dit un jour: « Celui qui n'a pas de patrie n'a pas de sépulture. » Et il m'interdit de voyager. Je vais vous dire comme ça un petit poème qui va très bien aussi avec cette poésie. C'est un poète de Guercy. Du Guercy, c'est français, voilà, une espèce de petite chanson que je trouve pas bien avec cette poésie. Jeanne d'aimer, veux-tu me donner à boire, beau fils de roi? Mais je n'ai ni bol ni verre. Jeanne d'aimer, dans ta main creuse, on peut boire. Beau fils de roi, je ne l'ai pas essuyé. Jeanne d'aimer, à tout donc, tu as réponse, beau fils de roi. Ainsi me l'a pris mon père. Alors un autre petit poème qui s'appelle La mort numéro 18. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais ça ne dit rien. Un poème, c'est toujours aussi un grand mystère. L'oliveraie était verte autrefois. Était. Et le ciel, une forêt bleue. Était mon amour. Qu'est-ce qu'il a ainsi changé ce soir? Ils ont stoppé le camion des ouvriers à un tournant. Calme. Ils nous ont placés face à l'est. Calme. Mon cœur était un oiseau bleu autrefois. Oh, nid de mon amour. Et tes mouchoirs étaient chez moi. Blanc était mon amour. Qu'est-ce qui les a souillés ce soir? Je ne sais, mon amour. Ils ont stoppé le camion des ouvriers au milieu du chemin. Calme. Ils nous ont placés face à l'est. Calme. Je te donnerai tout, l'ombre et la lumière, l'anneau des noces et tout ce que tu désires, un jardin d'oliviers, de figuiers, et la nuit, je te rendrai visite comme à l'accoutumée. J'entrerai en rêve par la fenêtre et je te lancerai une fleur de sambac. Et ne m'en veux pas si j'ai quelques retards. Cela, c'est qu'ils m'ont arrêté. L'oliveraie était toujours verte. Était mon amour. 50 victimes l'ont changé en bassin rouge au couchant. 50 victimes, mon amour, ne m'en veux pas. Ils m'ont tué et tué. Et les oiseaux meurent en Galilée. Il a très peu eu le temps de vivre en Galilée, quelques années seulement, tout petit. Nous nous retrouverons sous peu, dans un an ou deux, et une génération. Puis elle jeta pêle-mêle dans son appareil photographique 20 jardins, les oiseaux de Galilée, et s'en alla, par-delà les mers, chercher un nouveau sens à la vérité. Ma patrie est une corde à linge pour les mouchoirs du sang versé. À tout instant, et je me suis allongée sur la plage, sable et palmier. Elle n'en sait rien. Rita, nous t'avons, la mort et moi, divulgué le secret de la joie flétrie aux portes des douanes. Nous nous sommes, la mort et moi, renouvelés sur ton front premier, et à ta fenêtre, la mort et moi, deux visages. Pourquoi t'échappes-tu à présent du mien? Pourquoi? Pourquoi fuis-tu ce qui fait du blé, les cils de la terre, du volcan, un autre visage du jasmin? Pourquoi fuis-tu? Seul, son silence me fatiguait la nuit lorsqu'il s'allongeait devant ma porte, telle la rue, le vieux quartier. Que ta volonté soit faite, Rita, que le silence soit hache, bordeur d'étoiles ou climat propice à l'enfantement de l'arbre, je savoure le baiser sur le fil des lames. Viens, adhérons au massacre. Comme des feuilles superflues, les essaims d'oiseaux sont tombés dans les puits du temps, et moi, je repêche les ailes bleues. Rita, je suis la pierre tombale de la sépulture qui grandit.
Rita, je suis celui dans la chair duquel les moissons creusent la figure d'une patrie. Rita.
Un petit poème de Brecht.
Est-ce qu'on fait une pause musicale?
Oui, c'est une bonne chose. Tu nous fais passer quoi?
Alors, je vais dire ça tout de suite. Kalsoum, mais c'est juste la musique.
Ah, Kalsoum, très grande chanteuse égyptienne.
Invité Bertolt Brecht pour quelques vers. Sous le familier, découvrez l'insolite. Sous le quotidien, décelez l'inexplicable. Puisse toute chose habituelle vous inquiéter. Découvrez la règle, découvrez l'abus. Et partout où l'abus s'est montré, trouvez le remède. Revenons à Mahmoud Darwish sur la descente du Carmil. Je ne vous dis pas ce que c'est que le Carmil, devinez. Pour un jour où se renouvelle mon heure, j'ai dit au Carmil, maintenant je pars. Et la mer se déploie entre le ciel et l'orée de ma plaie. Et je pars dans un horizon qui se penche sur nous et prie pour nous ou nous brise. Cette terre nous ressemble. Lorsque nous venons à elle, elle nous ressemble quand nous la quittons. J'ai laissé derrière moi les traits de son visage. Son nom me précédait et désignait ses traits et mon explosion. J'ai laissé mon berceau. Laisser un tombeau préparé pour tous les morts. J'ai laissé celle que mes bras ont endolorie, celle dont les mains m'ont fait mal. Je l'ai laissée, quêtant un amant, 5 minutes après mon départ. Pour un jour où se renouvelle mon heure, j'ai dit au Carmil, maintenant, je pars. Une balle effleure mon front et m'assemble ainsi que le baiser unit les deux lèvres. Le grenadier en fleurs naît dans les rochers qui m'ont apprivoisé et me change en 2 amants. Au loin, et la mer se propage entre le ciel et l'orée de ma pluie. J'ai imaginé que tu étais mon appui. Et je me suis lassée de l'attachement de la croix au clou, descendant de la pointe des lances et de la blessure. J'ai touché un objet. Ce n'était que la sandale d'un soldat et ma chute s'est prolongée et prolongée. Depuis ce jour, je cherche un lieu où poser mes pieds. Je suis le cours du fleuve et ne poursuis pas les vagues. Retrouverai-je mon souffle? Un soldat partage avec moi mes plaies et l'éveille dans l'espoir d'être décoré et m'interdit de continuer à mourir. Il se saisit de la moitié de mes plaies et abandonne l'autre à la sécurité des nations. Il secoue mes doigts. Un souvenir en tombe. vieux coup de feu, pain parasol, fruit pourri, chef d'accusation et des questions. Il fouille contre ma peau, mais confisque Haïfa, car elle faisait contrebande d'un épi. Oh, Carmil! Voici que carillonnent toutes les cloches des églises. Elles annoncent que mon trépas momentané ne s'achève pas toujours, s'achève une fois. Oh, Carmil! Voici que des oiseaux de papier viennent à moi, et viennent à toi aussi. En toi, nulle différence entre les cailloux et les oiseaux, et la résurrection du Christ est encore remise. Oh, Carmil! Voici le début des vacances scolaires. Fayrouz me chante. Nous prenons des cachets qui font pleurer. Et nous pleurons une montagne volante. Oh, Carmil, voici qu'un officier encore m'expose au danger de l'éternité. Nous nous sommes éloignés des arbres. La mer nous sépare à peine. Nous voici, entre pureté et souillure, deux objets qui fusionnent et se scindent, comme si les êtres aimés étaient un cercle de craie susceptible de disparaître ou de demeurer. Nous voici, portant notre naissance ainsi que la femme stérile porte le rêve. Te voici, minaret de Dieu, parfois, képi de Para, d'autres fois, et te voici, mon Carmil. Et chaque fois que les guerres me dépouillent de la terre, tu me fais don d'un rêve. Je proclame que les temps ont changé. Un pain pouvait rendre Dieu plus proche, changer la blessure en astre, enfanter les prophètes et faire de moi leur serviteur. Oh, Carmil, ramifié dans mon corps, pourquoi me charges-tu de toutes ces distances quand la mer nous sépare à peine? Une jeune fille remplie de vignes a croisé mon chemin. Elle chantait sur les routes de Cham. Ah, si une seule vigne était restée, pour que je revienne vers elle. Une jeune fille m'a embrassée car j'avais prononcé le nom de son Carmil dans un haut-parleur. Elle vint à mon hôtel me dire « Je t'aime ». Puis elle se réfugia en lui, dans mes bras. Que dit la montagne? Des roseaux ont pleuré dans un cours d'eau, et le cours d'eau était miroir, mais la montagne n'a dit mot. Sont-ils partis? Le vent s'est égoutté de mon front et j'ai épongé le front, le vent quand tu éponges ta sueur. Je me suis souvenu qu'à mon réveil, un matin, l'acte de naissance de ma mère était discutable, que les hymnes de ma grande famille arabe faisaient les valises des réfugiés et levaient les ponts de la traversée. La Palestine devint plus proche, mais les réfugiés divergèrent sur les saisons des oranges et du blé. Une jeune fille remplie de vignes a croisé mon chemin. Elle chantait sur les routes de Chama. Si une seule vigne était restée, pour que je revienne vers elle. Mais je suis partie. Oh, Carmil de mer, d'herbe et de feu, roche flottante de la félicité. Dans ma chair, j'ai coupé une chemise pour cacher les traces de ton coup de lance repentant, et les soldats me renièrent. Je me tenais là-bas, à la porte de ma mère. J'appelais Damas. Et tu entendais mon cœur dans le bruissement de tes pins qui s'éloignaient. Le tigre bienfaisant me lavait lorsque je mourais de nostalgie pour la tour de Babel. Et me voici désormais, à mon entrée dans la mosquée des Omeyyades, le peuple de Damas s'interrogea « Qui est cet amoureux émigré ?» Les eaux du Nil et de l'Euphrate effaçaient de mes côtes les traces de ma geôle lorsque je me suis, un jour, tenu sur les bords du Nil et un autre sur les bords du Tigre. Tous ceux qui me virent émerveillés s'interrogèrent. Qui est ce touriste émigré? J'ai laissé mon aimé, je ne l'ai pas oublié, dans le couchant des arbres, brottant avec l'écume des mers son mouchoir et mes pansements. J'ai cru que les cieux étaient plus distants que sa main de mon front, et je lui ai fait croire que mon cœur arrivait, que mes mains se déplaçaient vers une dépouille perdue. J'ai laissé mon aimé, je ne l'ai pas oublié, sur les flancs de la montagne, prêtant ses couleurs aux oiseaux. Ses mains étaient source de toutes les couleurs et de toutes leurs nuances, mais je sentais les sources menacées de tarissement. Je sentais ma bouche partir vers un autre langage. J'ai laissé mon aimé, je ne l'ai pas oublié, j'ai laissé mon aimé, j'ai laissé... J'aime les pays que j'aimerais. J'aime les femmes que j'aime. Mais une seule branche de cyprès dans le carmille embrasé vaut toutes les hanches des femmes et toutes les cités. J'aime les mers que j'aimerais. J'aime les champs que j'aimerais. Mais une goutte d'eau sur les plumes d'une alouette nichée dans les pierres de Haïfa vaut toutes les mers et je me lave des fautes que je commettrais. Laissez-moi accéder au paradis perdu, et comme Nazim Hikmet, je crierai « Oh, ma patrie !» Voilà le chant d'un exilé qui rappelle justement Nazim. Mais nous avons aussi un autre petit poème. Jour, lorsqu'il s'éloigne, l'ennemi qui prend le thé dans notre masure a une jument dans la fumée, et une fille aux sourcils épais, aux yeux noisettes, à la longue chevelure telle la nuit des chansons sur les épaules. Et son image, je ne le quitte jamais quand il vient chez nous demander un thé. Mais il ne nous dit rien de ses occupations le soir, ni d'une jument abandonnée par les chansons au sommet de la colline. Dans notre masure, l'ennemi se repose du fusil. Il l'abandonne sur la chaise de mon grand-père et se nourrit de mon pain, de notre pain. Comme tout enivré, il sommeille un temps sur le siège en osier, se penche sur la fourrure de notre chatte et nous dit toujours « Ne blâmez pas la victime, nous demandons. Qui est-elle ? Il répond, un sang que la nuit ne dessèche jamais. Les boutons de son uniforme brillent quand il s'éloigne. Bonsoir. Salue notre puits et le carré des figuiers. Marche doucement sur notre ombre dans les champs d'avoine. Salue nos cyprès dans les cieux et n'oublie pas le portail de la maison, béant dans les nuits. Rappelle-toi que le cheval a peur des avions et salue-nous là-bas si tu trouves le temps. » Ces paroles que nous aurions aimé dire sur le pas de la porte, il les entend parfaitement, parfaitement, mais il les cache dans une toux précipitée, puis les jette de côté. Puis pourquoi rend-il visite tous les soirs à la victime ? Pourquoi retient-il nos proverbes, tout comme nous ? Reprend-il nos chants sur nos rendez-vous dans la terre sacrée ? N'était le revolver ? La flûte se serait unie à la flûte. La guerre durera tant que la terre en nous sur elle-même tournera. Mais soyons bons. Il nous demandait d'être bons ici, et il déclamait les vers du pilote de Yeats. « Je n'aime pas ceux que je défends, tout comme je n'ai pas d'adversité contre ceux que je combats. » Et il sortait de notre masure de bois, parcourait 80 mètres jusqu'à notre maison de pierre, là-bas, à la lisière de la plaine. Moi, « Salut notre maison pour nous, l'étranger !» Les tasses de notre café sont encore en l'état. Y sens-tu l'odeur de nos doigts ? Dis-tu à ta fille à la natte et aux sourcils épais qu'elle a un camarade absent qui souhaite lui rendre visite ? Rien que pour traverser son miroir et voir son secret, voir comment, À sa place, elle poursuit sa vie. Salue-la, si tu trouves le temps. Ces paroles que nous aurions souhaité dire, il les entendait parfaitement, parfaitement. Mais il les cachait dans une toux précipitée, puis les jetait de côté. Et les boutons de son uniforme brillaient, tandis qu'il s'éloignait.
Voilà, nous allons maintenant retrouver un peu Nazim Hikmet, qui lui aussi connaît l'exil, et il a écrit aussi une grande poésie sur cet exil qui a duré toute sa vie presque. Je voudrais dire un petit texte de Jacques Lacarrière sur Nazim, et sur le mensonge. Voilà, donc il parle par exemple, « Pourtant il faut qu'on convenir, les berceuses ne sont que des fables. » visant à nous endormir, sans prétendre à quelque vérité, alors que les informations, les slogans politiques et les discours idéologiques, tout ce qu'on le nomme les nouvelles, se prétendent au contraire paroles de vérité. Vouloir déceler, puis affronter pour les combats les figures illusoires et les mensonges de chaque jour ne peut être qu'un combat d'adultes et d'adultes conscients des injustices et des inégalités de toute société. Le mensonge des faits n'était que celui d'un rêve enchanteur et trompeur. Le mensonge des faits, lui, est détournement, dénaturation du réel. Le vaincre n'a pas pour but de posséder ce monde, mais d'accéder enfin à sa compréhension. Le vrai voyant, ou si l'on veut, le visionnaire, et donc celui qui pressent la nature du réel et de la vérité et qui perçoit leurs ombres et leurs lumières à venir. Alors, une petite berceuse de Nazim. Mon âme ferme les yeux tout doucement. Et comme on s'enfonce dans l'eau, plonge dans le sommeil nu et vêtu de blanc, le plus beau des rêves t'attend. Doux, doux. Mon âme, ferme les yeux tout doucement et abandonne-toi comme au creux de mes bras. Doux, doux. Dans ton sommeil, ne m'oublie pas, doux, doux. Ferme tes yeux tout doucement, tes yeux verts marron où brûle une flamme, doux, doux, mon âme, doux, doux. C'est une berceuse aussi pour lui dans la prison. Il fallait bien qu'il puisse s'endormir aussi. Alors, justement, à propos du mensonge, il a écrit, Nazim,
un poème qu'il a appelé « De vos mains et du mensonge ». Vos mains graves comme les pierres, tristes comme les airs chantés dans la prison, lourdes, massives comme les bêtes de somme, vos mains qui ressemblent au visage furieux des gosses affamés. Vos mains légères, habiles comme les abeilles, chargées comme les mamelles de lait, intrépides comme la nature, vos mains qui gardent sous leur peau dure l'affection et l'amitié. Notre planète ne tient pas entre les cornes d'un bœuf, elle tient entre vos mains. Oh, les hommes, les nôtres, on vous nourrit de mensonges, alors qu'affamés, il vous faut du pain, de la viande. Vous quittez ce monde aux branches lourdes de fruits sans avoir mangé une seule fois sur une nappe propre. Ah, les hommes, les nôtres, surtout ceux d'Asie, d'Afrique, du Moyen et du Proche-Orient, des îles du Pacifique, et ceux de mon pays, c'est-à-dire plus de 70% des hommes, vous êtes endormis, vous êtes vieux, vous êtes curieux, vous êtes jeunes, comme vos mains. Les hommes, ah, les nôtres, mon frère d'Europe ou d'Amérique, tu es alerte. Tu es audacieux et tu es étourdi comme tes mains. On te ment, on te fait marcher. Et les hommes, ah, les nôtres, si elles mentent les antennes, si elles mentent les rotatives, s'ils mentent les livres, s'ils mentent l'affiche, la vie sur la colonne, si elles mentent sur l'écran les jambes nues des filles, si la prière ment, si elle ment la berceuse, s'il ment le rêve, s'il ment celui qui joue du violon dans le cabaret, s'il ment le clair de lune dans les nuits désespérées, si elle ment la parole, si elle ment la couleur, si elle ment la voix, s'il ment celui qui exploite vos mains, si tout le monde et toutes les choses mentent à l'exception de vos mains, c'est pour qu'elles soient obéissantes comme l'argile, aveugles comme les ténèbres, idiotes comme le chien du berger, et pour que ne se révoltent pas vos mains, et pour que ne finisse pas cette injustice, le rêve du trafiquant dans ce monde mortel, dans ce monde où il ferait bon de vivre. Voilà, Nazim. Justement, à propos de la berceuse, il disait « Des berceuses que chantent les mères, aux nouvelles que lit le speaker, vaincre le mensonge partout dans le monde, dans le cœur, dans le livre, dans la rue. Quel bonheur fantastique que de comprendre, comprendre ce qui s'en va et ce qui vient. » Écrit ça en 1946. Oui. C'est d'amour, c'est des poètes qui portent l'amour partout d'une façon bouleversante, malgré les supplices, parce qu'ils étaient plus ou moins... Nazim a été torturé gravement, et je ne sais pas, Mahmoud, il en parle, il a fait beaucoup de prison, mais ils n'ont dû pas l'arranger non plus. Il parle souvent de son visage défait. Et il dit, Nazim... Je suis celui que l'on désigne comme le poète de la Palestine. Une histoire, celle d'un grand, du grand déracinement de mon lieu, en se confondant avec celle de mon peuple. En prison, j'ai chanté ma nostalgie du café et du pain de ma mère. Alors j'ai chanté mon exil, les misères de l'existence, de résistance. Et je ne pouvais imaginer que les lecteurs trouveraient chez moi un palliatif démesuré pour continuer à espérer. D'ailleurs, quand Mahmoud Darwish dit ses poèmes dans les pays de Palestine, du Liban, de l'Égypte et d'ailleurs, les salles étaient archi-pleines et il fallait mettre des haut-parleurs dehors et il venait plus de 3000 personnes écouter cette voix... disons, d'immigrés. On devrait les écouter plus, les immigrés. Ils sont tellement silencieux. Hein? Voilà. Donc, il parle aussi beaucoup, Mahmoud Darwish d'ailleurs, Nassim Hikmet, c'est différent, mais la langue, il dit que toute langue possède son système de signes à propos de la traduction. Son style, sa structure propre. Le traducteur n'est pas un passeur du sens des mots, mais l'auteur de leur trame de relations nouvelles. Il n'est pas le peintre de la partie éloignée, éclairée du sens, mais le guetteur de l'ombre et de ce qu'elle suggère. On voit ainsi comment un traducteur original et créatif détient la force de construire ou de démolir le poème. Traduit n'est plus la seule propriété de son auteur, mais aussi celle de son traducteur, qui devient également son poète. Je n'habite pas le fleuve, mais ses rives. On va revenir avec Nazim. Nazim. Alors, j'ai un très beau livre que j'ai trouvé. Je vais lire dans ce grand livre. C'est un bout de légende, parce qu'il a écrit de grandes légendes aussi. Est-ce que je suis là? 5, 32. Mets-nous un peu de musique, qu'on puisse se reposer un peu. Nous allons rentrer dans une épopée racontée par Nazim Hikmet, qui sait très bien raconter ses grands récits. Celui-là, c'est un extrait. C'est le poème 9 de l'épopée du Shir Bedreddin de Simavn. Il faisait chaud. Chaud. La chaleur était un couteau, manche ensanglantée, l'âme émoussée. Il faisait chaud. Les nuages étaient pleins. Les nuages allaient se vider soudain. Lui, immobile, regarda du haut des rochers. Ses yeux, comme deux aigles, se posèrent sur la plaine, là-bas. La plus tendre, la plus rude, la plus avare, la plus généreuse, la plus aimante, la plus grande et la plus belle des femmes, la terre. Aller accoucher d'un instant à l'autre. Il faisait chaud. Du haut des montagnes de Karaburun, fronçant les sourcils, lui regarda l'horizon où se terminait cette terre, dans les champs, arrachant comme des coquelicots sanglants des têtes d'enfants, traînant derrière lui des clameurs toutes nues. Un incendie à 5 parnaches s'approchait. Celui qui venait était le prince héritier Mourad. L'ordre impérial signifiait au prince Mourad de foncer vers les plaines d'Aïdin, de s'abattre sur le lieutenant de Bedreddin, Mustapha l'hérétique. Il faisait chaud. Le lieutenant de Bedreddin, Mustapha l'hérétique, regardait. Il regardait le paysan Mustapha. Il regardait sans peur, sans colère, sans sourire. Il regardait droit devant lui. Il regarda la plus tendre, la plus rude, la plus avare, la plus généreuse, la plus aimante, la plus grande et la plus belle des femmes, la terre, aller accoucher d'un instant à l'autre. Il regarda du haut des rochers. Les braves de Bedreddin regardèrent l'horizon. La fin de cette terre se rapprochait de plus en plus sur les ailes de l'oiseau de mort, porteur de l'ordre impérial, alors que cette terre, avec son raisin, ses figues, ses grenades, ses brebis, à la toison plus blonde que le miel, au lait plus épais que le miel, avec ses cheveux à la taille fine, à la crinière de lion, ceux qui regardaient du haut des rochers. Il l'avait ouverte à tous comme une table fraternelle, sans mur et sans limite. Il faisait chaud, lui regarda. Les braves de Bedreddin regardèrent à l'horizon. La plus tendre, la plus rude, la plus avare, la plus généreuse, la plus aimante, la plus grande et la plus belle des femmes, la terre allait accoucher d'un instant à l'autre. Il faisait chaud, les nuages étaient pleins. Bientôt, pareil à une tendre parole, la première goutte tomberait sur le sol et soudain, comme s'il jaillissait des rochers, comme s'il pleuvait du ciel, comme s'il surgissait du sol. Ultime récolte que donnait cette terre, les braves de Bedreddin se dressèrent face à l'armée du prince héritier. Robe blanche sans couture, tête nue, pieds nus, épée nue, extraordinaire fut le combat. Paysans turcs d'Aydin, pêcheurs grecs de Kio, boutiquiers juifs, les 10 000 hérétiques compagnons de Borklus Mustapha pénétrèrent comme 10 000 haches dans la forêt de l'ennemi. Les rangs aux drapeaux verts et rouges, aux boucliers sculptés, aux casques de bronze furent mis en pièces, et quand le soir tomba sous la pluie battante, les 10 000 n'étaient plus que 2 000. Pour pouvoir chanter d'une seule voix, retirez tous ensemble les filets des eaux, travaillez le fer comme une dentelle tous ensemble, labourez tous ensemble la terre, mangez tous ensemble les figues d'où coule le miel, être ensemble en tout et partout, sauf sur la joue de la bien-aimée. Les 10 000 donnèrent leurs 8 000. Ils furent vaincus. Les vainqueurs essuyèrent le sang de leurs épées sur les robes blanches sans couture des vaincus. Et la terre travaillée par les mains des frères comme une chanson que l'on chante en chœur fut foulée par les sabots des chevaux venus des écuries du palais des Dînes. Ne va pas me dire. Ce fut la conséquence inéluctable des conditions historiques, économiques et sociales, je le sais. Ma raison s'incline devant tout ce que tu me dis là, mais ce cœur que voilà ne comprend rien à ce langage. Il dit, lui, ô destin aveugle, ô sort perfide. Et l'un après l'autre, en un bref instant, les épaules lacérées par les coups de fouet, le visage couvert de sang, piétinant mon cœur de leurs pieds nus, passent dans la contrée d'Aïdin, les vaincus de Karaboun. Voilà un combat historique et vrai.
Baby, do we lose?
Nazim Hikmet, triste liberté. Tu vends la force de tes yeux, la lumière de tes mains. Tu pétris la pâte de tous les délices, sans en goûter le moindre boucher. Avec ta grande liberté, tu t'échines, libre de rendre Crésus ceux qui te tiennent à leurs bottes. Tu es libre. À peine es-tu né, on te parsème de moulins à mensonges qui œuvrent toute ta vie sans cesser. Avec ta grande liberté, le doigt sur la tempe, tu songes à la liberté de conscience. Tu es libre. Tu dodelines de la tête comme décapité. Tes bras pendent le long du corps avec ta grande liberté. Tu erres sans répit, libre de rester sans travail. Tu es libre. Tu aimes ton pays comme ton frère le plus proche. Un jour, on l'endossera au nom de l'Amérique, par exemple, toi avec ta grande liberté, libre de servir de terrain d'atterrissage. Tu es libre. Wall Street, de ses mains torves, t'attrape au collet. Un de ces jours, on t'enverra, disons, en Corée. Avec ta grande liberté, tu rempliras le fossé, libre de faire le soldat inconnu. Tu es libre. Tu dis que nous devons vivre comme des hommes, pas comme un numéro ou un moyen ou un instrument. Avec ta grande liberté, on te passe aussitôt les menottes, libre d'être arrêté, emprisonné ou même pendu. Tu es libre. Pas de rideau dans ta vie, ni de tulle, ni de bois, ni de fer. Tu n'as pas besoin de choisir la liberté. Tu es libre. Mais cette liberté est bien triste sous les cieux étoilés. Ça, c'est parle de lui-même, qui se dit à lui-même qu'il est libre dans la prison, parce qu'il a vécu plus de 15 ans. Et après l'exil, bien sûr. C'est, il se parle à lui-même. Tu es libre. Tu es libre. Donc, il y a une phrase que dit Darwish, l'exil de la femme dans l'homme. Dans l'homme. L'exil de la femme dans l'homme, l'exil de l'homme dans la femme. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, non ? Enfin. Alors, il est dans le sud, et il dit, Nazim, « Cette année, dans le sud, au début de l'automne, je me suis barbouillé de mort. Oh. » Pas de mort, de mer, de sable et de soleil. C'est drôle ce mot mort à la place de la mer. Je me suis imprégné de l'arbre comme de miel. Je me suis barbouillé de pommiers. La nuit, le ciel embaume ainsi que la moisson. La nuit, le ciel descend sur la route poudreuse et chaude. Je me suis barbouillé d'étoiles à la mer, au sable, au soleil, aux pommiers, aux étoiles. Je m'habitue, ma rose, je m'habitue vraiment, mais l'heure est venue de partir en me mêlant à la mer, au sable, au soleil, aux pommiers, aux étoiles. Oh, la tristesse est sur mon dos comme une chemise de grosse toile lavée avec de l'eau de mer et une brosse de chien-dent sur un pont de bateau balayé par le vent. Et dans ce village du sud sans répit, le soleil mûrit, sans pourpre et se confie au cœur des jeunes filles et des abricots. Comme de grosses gouttes de miel, les abeilles transportent au soleil et les treilles. Elles sont venues de ma jeunesse en bourdonnant. Ces pommiers, eux aussi, en viennent. Ces lourds pommiers, cette route à la poussière dorée, ces cailloux blancs tout au long du guéret. Ma foi dans les chansons, l'absence d'envie en mon cœur. Cette journée sans nuages en vient aussi. Cette journée bleue, la mer couchée sur le dos, toute nue, toute chaude. Cette nostalgie. Elle est dent lumineuse de cette bouche charnue de ma jeunesse, sont venues dans ce village du Caucase, aux pattes des abeilles, comme de grosses gouttes de miel de ma jeunesse, sont venues de ma jeunesse oubliée quelque part sans que j'en sois repu. Au-dessus de la mer, le nuage perd, sur la mer, le bateau d'argent. Dans la mer, le poisson jaune, au fond de la mer, l'algue bleue, au bord de la mer, un homme nu, debout, pense. Est-ce que je dois être le nuage ou bien le bateau ? Est-ce que je dois être le poisson ou bien l'algue bleue? Ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Il faut être la mer, mon gars, avec son nuage, son bateau, son poisson et son algue. Alors, bien sûr, nous allons bientôt terminer. Alors, c'est Nazim, c'est pas Nazim qui va dire les derniers vers, c'est Mahmoud Darwish. Je n'ai pas besoin d'une nuit à celle-ci pareille pour rêver. Un peu de ciel pour mes visites suffit. Je verrai alors le temps léger, léger, familier, et je m'endormirai. Il finit en musique.
Thank you.